France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Un jour dans le monde, c'est un jour entre Gaza et Israël ce soir.
You know, during the next six weeks, Israel will negotiate the necessary arrangements to get phase two, which is a permanent end of the war. Let me say it again, a permanent end of the war.
Je voulais qu'on l'entende de permanente fin de guerre. C'est Joe Biden, évidemment, qui parle et qui dit, vous verrez qu'au cours des six prochaines semaines, Israël négociera les arrangements nécessaires pour obtenir la deuxième phase, c'est-à-dire une fin définitive de la guerre. Bonsoir Dominique Moisy.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géopolitologue, vous êtes conseiller spécial à l'Institut Montaigne. On a fait exprès de mettre Joe Biden pour démarrer cette conversation, même si ce qui nous intéresse vraiment est de savoir si ce qui se passe en ce moment entre Israël et Gaza est en fait une sorte de phase 1 d'une remise à plat du Proche-Orient pour la nouvelle administration Trump, et si, oui ou non, il vient là de gagner des points. D'abord, la guerre sera finie, la guerre est finie, Joe Biden. Est-ce que vous iriez jusque-là, vous, Dominique Moisy, dire que la guerre est finie ou pas?
Non, certainement pas, à aucun moment. Je crois qu'il y a une trêve qui n'est pas encore mise en œuvre, qui ne signifie en rien la fin du conflit. Donc, on est dans une phase particulièrement fragile avec Netanyahou qui se trouve face à un dilemme. Qu'est-ce qui est plus dangereux pour lui? Courroucer Trump ou perdre le soutien de l'extrême droite et risquer de voir son gouvernement tomber.
Jusque-là, de ce qu'on croit voir en effet, alors sauf si les choses capotent définitivement avant dimanche, mais c'est plutôt l'option numéro 1. Et c'est ça que j'aimerais vous entendre commenter. Est-ce qu'il fait peur, Donald Trump? Pas seulement à Netanyahou, mais au fond, dans toute la région aussi. Est-ce que c'est ça qui est l'un des aspirateurs, on va dire, du règlement de certains conflits dans celui-là? Est-ce que c'est la peur?
Alors, la peur ou l'espoir? Parce que la peur, sans doute, pour le Hamas, quand il dit « ce sera l'enfer », les Palestiniens le prennent au sérieux. Dans le cas de Netanyahou, c'est aussi la peur de perdre le soutien de l'Amérique, mais c'est aussi l'espoir d'avoir une oreille beaucoup plus favorable à Washington. L'ambition de Netanyahou, c'est de se concentrer sur l'Iran d'un côté, et il espère avoir le soutien de Donald Trump. C'est aussi l'espoir que, en fait, Donald Trump ne se soucie pas de considérations humanitaires. Il n'est pas favorable à la solution à double État, palestinien et israélien. Il voudrait changer les règles du jeu, forcer les Saoudiens et les Israéliens à faire la paix ensemble pour pouvoir se concentrer sur l'Iran et fermer cette énorme distraction qu'est le Moyen-Orient, pour se concentrer sur ce qui l'intéresse à l'intérieur, dans l'immédiat, la lutte contre les migrants, et à l'extérieur, la grande rivalité avec la Chine.
Ça veut dire qu'il n'est ni pacificateur, ni accélérateur, ou peut-être accélérateur justement pour lui, pour que ça aille plus vite. Parce qu'au fond, je me demandais, Dominique Moisy, si cette guerre n'était pas en train de finir par épuisement, de toute façon, de part et d'autre. Celle des Palestiniens, sans aucun doute, mais celle des Israéliens aussi, en fait.
C'est difficile à dire, parce que si tel était le cas, la négociation serait plus facile. Or, je crois que pour les Israéliens, cette trêve est amère. Ils ne peuvent pas laisser les otages dans la situation où ils se trouvent, mais ils se retrouvent au point de départ. C'est-à-dire que, en réalité, ils ont marqué des points considérables dans la région, ils ont modifié l'équilibre stratégique, mais ils doivent négocier avec un Hamas qu'ils n'ont pas éradiquée.
Alors, et c'est pour ça que c'est probablement dans cette phase post-guerre, en fait, qu'on attend surtout les États-Unis pour voir quels seront leurs gestes. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'une des idées, c'est de se rapprocher à nouveau de l'Arabie Saoudite, en gros de ressortir les accords d'Abraham qui ont été un peu effondrés par le 7 octobre. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça, y compris pour l'administration Trump? Est-ce qu'on remet ses chaussures exactement là où on les avait laissées en 2020, en quittant l'administration américaine?
Non. Je crois que Donald Trump 2 se sent plus fort que Donald Trump 1 dans un monde, paradoxalement, qui est beaucoup plus compliqué, même pour l'Amérique.
Ouais. Il n'est surtout pas le même que celui qu'il a lâché.
Il y a autrement dit, il y a plus de Trump en Amérique, mais il y a moins d'Amérique dans le monde.
Mmh.
Et ça, Trump n'en est pas tout à fait conscient.
Mais du coup, c'est quoi? C'est remake ou rematch? C'est-à-dire, est-ce qu'on recommence ou est-ce qu'on part vraiment sur une autre base? Parce qu'encore une fois, le Proche-Orient, le Moyen-Orient qu'il a en face de lui n'a tellement rien à voir avec celui qu'il a lâché en 2020.
Ben, le Moyen-Orient qu'il a en face de lui est un Moyen-Orient qui a connu un changement considérable avec la défaite de l'Iran. En fait, le 11 septembre 2001 s'était traduit au bout du compte par la victoire de l'Iran, qui était le seul bénéficiaire de la guerre de 2003 en Irak. Le 7 octobre 2023 se termine, si on peut le dire, avec un Iran infiniment plus faible qu'il ne l'était le 6 octobre 2023.
Et du coup, les États-Unis, Dominique Moïse, c'est quoi leur rôle? Est-ce qu'on appuie sur la tête de l'Iran, en fait, pour le noyer encore un peu plus? L'administration Biden, on se souvient, avait retenu, y compris le bras d'Israël. Est-ce que là, Trump autorise de lâcher les vannes sur l'Iran? Comment vous voyez les choses?
C'est le souhait, bien entendu, et le calcul de Netanyahou. Mais en irritant, comme il le fait, Trump à 3 jours, 4 jours de son investiture, il ne renforce pas ses cartes. Mais il se dit que Trump me laisse régler la question iranienne avec l'aide de ses bombes les plus puissantes. Qu'il ne me mette pas de bâton dans les roues et je vais régler cette question.
Et vous imaginez, Trump dire à Netanyahou, ok, je te laisse régler cette question, ou est-ce qu'ils l'ont fait, lui, Trump, une affaire personnelle?
La réponse n'est pas simple.
Non.
Parce que, en réalité, nous ne savons pas ce qui va dominer chez Trump dans les mois à venir. Est-ce que c'est sa dimension transactionnelle, l'homme du deal? Il faut que ça rapporte à l'Amérique. Ou est-ce que c'est sa dimension plus idéologique? Vous allez voir ce que vous allez voir. Je suis l'homme le plus puissant du monde, puisque je suis à la tête d'une Amérique qui renaît grâce à moi. Et on ne sait pas lequel de ces deux Trump, le transactionnel ou l'idéologue, va l'emporter.
Ça veut dire, par exemple, que le message d'apaisement, presque, de Pezeshkian, le président iranien, il n'y a pas très longtemps, c'était hier ou avant-hier, je crois, nous ne craignons pas la guerre, mais nous ne voulons pas la paix, tout ça n'existe pas aux yeux de Donald Trump, et ceux de Netanyahou probablement encore moins. Mais le message était à destination de Donald Trump. Est-ce que c'était aussi une manière de dire, attendez, nous, on ne veut rien avoir à faire avec ça?
Oui, mais il y a aussi une dimension intérieure iranienne. C'est le président qui représente le clan le plus modéré du régime qui dit « mais moi je suis pas un faucon, moi je ne veux pas la guerre, je suis prêt à négocier jusqu'au dernier moment ».
Mais ça compte, ça, vous pensez que ça compte pour Donald Trump ou pas?
Pas vraiment.
Mm-hmm.
Pas vraiment. Alors, c'est là encore une différence majeure entre Trump 1 et Trump 2. Trump 1 était surpris par sa venue au pouvoir. Il était entouré, encadré, modéré par ceux qu'on appelait les adultes dans la salle. Trump 2 a choisi les hommes qui l'entourent. Et ils sont très différents. Il y a un secrétaire d'État, un ministre des Affaires étrangères, comme M. Rubio, qui paraissent somme toute raisonnables. Il y a un futur ministre de la Défense qui paraît très excité. Et donc on ne sait pas laquelle de ces tendances va l'emporter.
Et on a un conseiller Proche-Orient, par exemple, qui s'appelle Steve Witkoff, qui a l'air d'avoir des méthodes qui sont extrêmement cash. Est-ce qu'il vous semble que se dessine une méthode, peut-être même une doctrine Trump, ce qu'on avait cherché vainement pendant son premier mandat? Y a-t-il, et notamment dans cette partie du monde, une doctrine Donald Trump?
Je crois que c'est trop tôt pour le dire. Mais s'il y avait une doctrine Donald Trump, elle consiste à dire c'est le droit de la force. Le plus fort l'emportera. Il y a un ralliement de Donald Trump au révisionnisme de la Russie de Poutine et de la Chine de Xi Jinping. C'est ça qui est nouveau. L'Amérique de Biden, classique, était internationaliste, multilatéraliste et somme toute optimiste. Elle agissait pour rendre encore le monde meilleur, ce qui paraît une hypocrisie totale à beaucoup de chefs d'État dans le monde. L'Amérique de Trump, à l'inverse, est révisionniste, unilatéraliste et expansionniste, comme vous venez de le suggérer, à partir de la question du Groenland, du canal de Panama, sinon du Canada.
Mais encore une fois, du coup, Dominique Moïsi, qu'est-ce que ça veut dire là, notamment pour Israël? Est-ce que c'est juste une manière de dire il faut que ce conflit se termine, je ne veux pas commencer avec ce boulet sur le dos? Est-ce que ça dit autre chose? En gros, est-ce que ça l'intéresse, Donald Trump, ce qui se passe à Gaza après, par exemple? Comment on reconstruit? Si on reconstruit, qui prend des parts? Est-ce que tout ça, ça l'intéresse ou pas du tout?
La réponse est plutôt pas du tout. Il faut que ce conflit, dans sa résolution première, apparaisse comme venant de Donald Trump. Il a fait la différence. C'est moi qui, avant même d'arriver à la Maison-Blanche, ai obtenu une solution. Mais s'intéresser, s'impliquer, pas du tout. En fait, il n'y a pas une vision messianique ou même une vision religieuse. Un grand président américain qui est mort récemment, qu'on a enterré à 100 ans, Jimmy Carter, était animé par une vision religieuse. En imposant la paix entre l'Égypte et Israël par les accords de Camp David, eh bien, il remplissait sa mission de chrétien.
Vous savez pourquoi je vous pose la question? Souvenons-nous de Trump 1, qui avait même des visées sur la Cisjordanie, qui voulait une annexion d'Israël de la Cisjordanie, et comme ça c'était fini. Est-ce que ça, c'est plus du tout sur le tapis? Est-ce que je vous vois faire... On n'en sait trop rien. Est-ce que ça existe encore,
oui,
cette histoire, ou pas?
Ça existe, ça existe. Ça existe énormément chez une partie de l'élite politique israélienne.
Certes, oui.
Qui consiste à dire, mais au fond, le problème, c'est pas Gaza. Le problème, c'est d'annexer la Cisjordanie. Et à partir de cette annexion, on pourra négocier le reste. Mais est-ce que l'Amérique de Trump est disposée à suivre Netanyahou dans cette direction? En réalité, je n'en suis pas sûr. Même s'il n'y a plus des adultes dans la salle, il y a quand même un congrès qui est plus raisonnable qu'on ne le suppose, et il y a la pression du monde international. Est-ce que l'Amérique est prête à s'isoler complètement du reste de la communauté internationale en suivant Netanyahou dans cette direction? Je n'en suis pas sûr.
Mais je crois qu'on le saura vite. Merci beaucoup, Dominique Moïsi. Merci d'avoir été avec nous dans Un jour dans le monde. La suite ce soir, c'est donc le reportage. Et ça se passe au Groenland. Au fond, c'est la suite de cette discussion qui est finalement pas fâchée qu'on regarde et qu'on parle de son indépendance, d'ailleurs. Pour aller jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufresne sous les radars.
Le Mozambique a un nouveau président depuis hier, déjà très contesté.
Le Monde à 18h50, c'est vous, Franck Madvon. Salut, Franck.
Bonsoir, Fabienne. Bonsoir à tous. L'Occident veut lutter contre les navires fantômes russes qui seraient responsables de sabotage de câbles en mer Baltique.
Et la tech la première. Salut Stéphane.
Rebonsoir. La voix de la doublure française de Sylvester Stallone a été clonée par une IA pour le nouveau film de la star américaine. On va voir le résultat.
Allez, tout de suite les amis, ne partez pas trop loin. Voici Georgia Smith, Loving You, c'est dans la playlist de France Inter.
Even though I tried, even though I cried, even though I made mistakes, but they were for you. After all I've seen, you treat me badly. I can't wash away your sweetest taboo. And I finally found myself, and I'm tied to the wreckage of you. Terrified that I'm under your spell. Don't wanna lose, and I keep on loving you. I keep on loving you. I keep on loving you. Got all of me in misery, and I keep on loving you. I keep on loving you, but all of me has fallen deep for you.
Even though I tried, even though I cried, even though I broke myself, I broke me for you. And even all those times I let you cut away my wings, now I'm flying back to misunderstood. And I finally found myself, and I'm tied to the wreckage of you. Terrified that I'm under your spell. Don't wanna lose, don't wanna lose. And I keep on loving you. I keep on loving you. I keep on loving you. Got all of me in misery.
Le reportage ce soir est au Groenland, sorti de sa nuit polaire par les déclarations de Donald Trump, prêt à sortir son porte-monnaie. Vous avez suivi tout cela avec nous. Hier, la première ministre danoise a appelé le prochain président des États-Unis pour lui rappeler qu'il appartenait au Groenland, de décider de son indépendance. Et justement, les déclarations de Trump ont réveillé les discours indépendantistes du Groenland, déjà très présents dans l'île, mais jusqu'ici invisibles au-delà de l'océan Arctique. Nous allons à Nuuk, la capitale du Groenland, et le reste, c'est Laurent Kramer qui raconte.
Des températures de moins 20 degrés toute l'année. Ici au Groenland, les journées sont courtes. On vit donc à la maison ou dans des petits cafés comme celui-ci pour se réchauffer. C'est là que nous avons rencontré Stina, 65 ans, estomaquée par l'attitude de Donald Trump envers le Groenland.
It's unbelievable.
Je n'arrive pas à y croire.
We don't believe it.
Personne n'y croit ici.
All what he does.
Tout ce qu'il fait.
Is so human unfriendly.
C'est tellement hostile envers chacun.
We don't want.
Nous ne voulons pas des Américains. Nous ne voulons pas des Chinois. Nous ne voulons pas des Danois.
Sentiment partagé ici par une grande partie de la population qui réclame l'indépendance du Groenland depuis les années 70. Le Groenland qui dispose désormais d'un parlement avec une trentaine de députés et d'un gouvernement, mais reste sous la tutelle du Danemark. Nous voici devant un petit bâtiment gris, invisible sous la neige. C'est le parlement du Groenland. C'est là que Qaarsoq Uddam, ancien député et désormais porte-voix de la cause indépendantiste, nous reçoit.
Frankly, nobody here.
Évidemment, ici, personne ne veut être sous la tutelle des États-Unis. Mais nous ne voulons pas non plus rester dans cette situation de statu quo avec le Danemark. Ces 10 derniers jours, la façon dont les Danois parlent du Groenland a basculé. Jusqu'ici, on nous disait, vous devriez être reconnaissant envers le Danemark. L'ancien premier ministre danois a passé son temps à nous menacer. Si vous parlez d'indépendance, nous allons vous couper vos subventions. Il n'y a que nous qui nous intéressons à vous. Le reste du monde ne vous regarde pas. Eh bien non, maintenant, nous valons quelque chose.
Donald Trump, avec ses déclarations, a ouvert le dossier de l'extraction des richesses au Groenland. Elles sont aujourd'hui pour la plupart interdites, mais la voie de l'indépendance passe aujourd'hui pour les Groenlandais par l'autonomie financière financière vis-à-vis du Danemark et donc par l'exploitation des richesses du Groenland.
Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul parti parmi les cinq formations politiques du Groenland qui soit complètement opposé à l'extraction du sous-sol. Donc, il va y avoir beaucoup de pression et nous ne sommes pas loin de commencer à forer.
Donald Trump s'invite au passage dans les élections qui auront lieu ici au Groenland au mois d'avril prochain. Kuno Funker est député du Parti social-démocrate Siamut au Parlement du Groenland.
Donald Trump est un businessman. Il a vu tout de suite qu'il fallait aller chercher ses ressources. Nous avons besoin de ces métaux pour les puces électroniques ou les batteries. Nous avons un accord avec l'actuelle majorité pour ne pas aller exploiter le sous-sol. Mais dans notre formation politique, nous sommes pour l'exploitation. C'est donc une solution qui s'offre à nous pour acquérir notre autonomie. Nous voulons qu'un référendum permette à chacun de se prononcer sur cette question.
Cette question complexe et l'influence pressante de Donald Trump bouscule le Groenland, qui n'avait jusqu'ici jamais envisagé de toucher à ses ressources afin de préserver son environnement.
Nous allons devoir voter sur ce sujet. Cela commence déjà à nous diviser. Ça nous inquiète car ces ressources sont en train de devenir une malédiction.
Le Premier ministre du Groenland, jusqu'ici opposé à l'essentiel des projets miniers, se déclare désormais disposé à travailler avec les États-Unis dans les régions où se trouvent ces ressources inexploitées.
Laurent Kramer pour le reportage. Laurent, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche.
Daniel Francisco Chapo.
Et nous sommes d'abord au Mozambique, où le nouveau président a prêté serment.
Oui, c'était hier à Maputo. Il s'appelle Daniel Chapo, il a 48 ans, ancien professeur de sciences politiques, animateur radio. L'homme en impose physiquement et c'est lui qui a été désigné par Frelimo, le parti au pouvoir au Mozambique, sans discontinuer depuis l'indépendance en 1975. Il a été élu au premier tour le 9 octobre dernier avec plus de 65% des voix. Une présidentielle entachée d'irrégularités selon tous les observateurs. Internationaux. Son principal opposant, Venancio Mondlane, estime qu'il a en réalité remporté le scrutin. Son entrée en fonction est en tout cas cruciale pour ce pays d'Afrique, l'un des plus pauvres et plus inégalitaires du monde, où l'opposition est durement réprimée depuis des mois. Plus de 300 morts dans des manifestations anti-régime. Dans son discours, Daniel Chapo a promis l'apaisement, de dialoguer avec tout le monde et des réformes symboliques comme la réduction du nombre de ministres. Mais des observateurs locaux le décrivent comme influençable aux mains du parti qui fera tout pour se maintenir au pouvoir.
Et nous voici en Australie où des plages sont fermées.
Oui, 9 plages de Sydney prisées des touristes inconnus pour leur eau transparente, surtout qu'on est là-bas en plein été. Sauf que depuis le début de la semaine, ces belles étendues de sable se retrouvent envahies par de mystérieuses boules grises de la taille de billes, parfois un peu plus grosses, charriées par la marée, d'où cette fermeture ordonnée par les autorités locales qui n'ont pas encore communiqué sur ce que sont ces petites boules. Des analyses sont en cours. L'Agence nationale de l'environnement enquête. Ça ressemble à une forme de pollution. Il y a en fait un précédent récent à Sydney, déjà en octobre. Des boules noires, cette fois, étaient arrivées par milliers sur les plages. Il s'agissait d'agglomérats de produits chimiques et de déchets. Il a fallu dépolluer tout ça.
Et puis nous sommes au Pakistan avec une sacrée bourde.
Oui, une publicité pour Pakistan International Airlines qui fêtait vendredi dernier son retour en Europe avec une cérémonie et un premier vol direct à un avion Islamabad-Paris PIA qui était banni depuis 4 ans du ciel européen. Sauf que pour annoncer ce retour sur ses réseaux sociaux, la compagnie a publié un visuel de très mauvais goût. On peut lire « Paris, nous arrivons aujourd'hui, jusqu'ici rien d'anormal. Ce qui choque, c'est qu'on voit la tour Eiffel et un avion qui semble fondre tout droit dessus. » Ces derniers jours, beaucoup d'internautes ont fait le parallèle entre cette Cette image est celle du 11 septembre 2001, dont l'un des cerveaux, pour rappel, était pakistanais. La compagnie aérienne n'a pour l'instant fait aucun commentaire. Le visuel est même toujours en ligne sur leurs réseaux sociaux. Mais la polémique enfle tellement que le Premier ministre du Pakistan en personne a demandé une enquête pour savoir comment un tel visuel a pu être publié. Très mauvais genre quand on sait en plus que CPIA a été banni en Europe. C'était après le crash d'un Airbus à Karachi qui avait mis en lumière que plus de 150 de ses pilotes volaient en réalité à cette époque sans aucune licence.
Ah quand même, eh oui. Merci beaucoup Kevin Dufraîche. Merci beaucoup. Vous repartez en passant par le village de Mintaba, c'est au sud-ouest du... Non. Enfin, du coup ça va être loin. Vous allez vers le sud-ouest du Cameroun et la musique afro-contemporaine de Blik Bessi, Woni, sur France Inter. Orben balele ni mono wongi, sogolwe ma binenge likere wongi, loyem binenge likere wongi, ngeni yesri yibe yo, basori nigil ni be yo, loyes biwele ni kere wongi, onge ba biwele ni mono wongi. Loye si ho, inyonyo ninyo. Loye si ho, iho ni mao. Ilong yes minenge likere wongi, papire din chomo kiki bitong bimo. Inge mwe mwa kibi perne ni munu wongi. Baby well ni bisgi wongi ha tangonge mle long ingeni yoki wo mumie abi well ni bisgi wongi ni bispana din kirne ni kere wongi ilong yesi ho inyonyo ninyo ilong yesi ho. Blik Bessi, Woni sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h49, c'est Franck Madvan.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Es. Le 18-20.
Franck, l'OTAN et 8 pays du nord de l'Europe se sont réunis mardi en Finlande. Leur objectif, lutter contre les sabotages en mer Baltique. Et ce soir, vous nous dites pourquoi ces États musclent leur dispositif face à la menace des navires russes.
Oui, c'est un autre aspect du conflit entre l'Occident et la Russie. Il relève de ce qu'on appelle la guerre hybride menée par Moscou. Toutes ces actions non militaires qui visent à affaiblir, à déstabiliser l'adversaire. En mer Baltique, les sabotages de câbles sous-marins sont devenus fréquents. Le premier incident, tout le monde s'en souvient, remonte à septembre 2022. Une explosion d'origine encore indéterminée a endommagé alors les deux gazoducs Nord Stream. En deux ans, d'autres gazoducs, mais aussi des câbles électriques, de communication ont été dégradés. C'est un réseau immense. Les Occidentaux savent qu'ils sont vulnérables. Les enquêtes sont souvent difficiles à mener. Elles ne parviennent à aucune conclusion claire. Mais la thèse d'accident répétitif ne tient pas. Les dommages surviennent dans les mêmes zone où naviguent des bateaux suspects et parfois presque au même moment.
Et donc la Russie est pointée du doigt.
Oui, plusieurs pays, dont la France d'ailleurs, accusent régulièrement Moscou. La Russie dispose en fait d'une flotte fantôme, des navires en mauvais état, battant pavillon étranger, qui transportent du pétrole en contournant les sanctions internationales. Ces bâtiments seraient à l'origine de plusieurs dégradations. Les 8 pays réunis aux côtés de l'OTAN mardi à Helsinki veulent donc déployer de nouveaux moyens et accroître la surveillance en mer Baltique. On va les citer, ces pays, Danemark, Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Allemagne, qui ont annoncé avec l'Alliance et l'UE la création d'une sentinelle de la Baltique. Peu de détails, de chiffres ont été donnés, mais des frégates, des avions, des drones navals seront déployés.
Et la Finlande a récemment donné l'exemple.
Oui, c'était juste avant Noël. Rupture d'un câble électrique entre la Finlande et l'Estonie. Les autorités finlandaises identifient très vite un navire suspect et l'arraisonnent le 25 décembre avant qu'il ne quitte les eaux territoriales. C'est un pétrolier immatriculé aux îles Cook. Aujourd'hui, il est toujours à quai et 8 membres d'équipage ont l'interdiction de quitter la Finlande. Évidemment, il faut des moyens pour pouvoir riposter ainsi. Encore une fois, on a peu de détails sur le dispositif qui sera mis en place. Mais la semaine dernière, des médias scandinaves ont parlé d'une dizaine de navires fournis par l'OTAN. Cette sentinelle de la Baltique peut aussi s'appuyer sur le travail d'une force dirigée par le Royaume-Uni, rassemblant les pays nordiques, baltes et les Pays-Bas. Une force qui aura un rôle d'alerte en cas de risque de sabotage grâce à un système reposant sur l'intelligence artificielle.
Et cette large coopération est inédite.
Oui, alors c'est le résultat d'une conjonction d'éléments. D'abord, c'est une conséquence de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Une telle force des mers n'aurait pas pu être mise sur pied aussi vite il y a 1 ou 2 ans. Aujourd'hui, la Russie est le seul État de la Baltique à ne pas appartenir à l'Alliance Atlantique. Tous les pays concernés travaillent désormais de concert face à Moscou. Ils vont, par exemple, réunir également des juristes pour limiter les possibilités de navigation de cette flotte fantôme russe. Les Occidentaux entendent aujourd'hui riposter à toutes les attaques, quelle que soit leur forme. C'est donc aussi un message envoyé à Poutine. Nous sommes prêts à tout.
Franck Madvon, merci beaucoup. Le jeudi, c'est la Tech la première et c'est Stéphane Jourdain.
France Inter, le 18/20.
À qui appartient la voix d'un défunt? C'est la question que vous posez, Stéphane, ce soir, parce que la voix de la doublure française de Sylvester Stallone, qui s'appelle Alain Dorval, est mort il y a quelques mois. Cette voix a été clonée avec une intelligence artificielle pour l'utiliser dans une bande-annonce.
Oui, Alain Dorval, nom inconnu des Français, mais voix très familière. Souvenez-vous, Cobra, 1986.
Alors calme-toi, amigo. Tu veux causer? On va causer. Une bonne conversation, ici.
Je refuse de causer avec vous. Faites venir les caméras ici tout de suite.
Hors de question. Je ne traite pas avec les caractériels. Je les supprime.
Je ne traite pas avec les caractériels, je les supprime, on dirait la conf de rédac du 18/20. Je vous ai mis un deuxième extrait pour que vous ayez bien la voix de Alain Dorval à l'oreille. Rambo 2, 1985.
Tu continues à cause de vous? C'était pas ma guerre. Et je suis revenu dans le monde. J'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport. Me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité de toutes les saloperies. Ils m'ont appelé le boucher.
C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé maintenant.
Pour vous? Pour moi, la vie civile, c'est rien. Là-bas, je pilotais un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en charge 1 million de dollars de matériel. Mais si j'arrive pas à avoir un boulot, gardien de banque.
C'est bon, vous l'avez.
Moi, c'est le milieu que je préfère. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo.
Le problème, c'est qu'Alain Dorval, vous l'avez dit, est mort en février dernier, alors que Sylvester Stallone, lui, est en pleine forme et qu'il continue de tourner des navets au kilomètre.
Et donc, la question s'est posée pour son nouveau film qui s'appelle Armor, qui sort en mars prochain. Comment fait-on pour la version française?
Et la réponse est venue de l'intelligence artificielle. La société spécialisée dans le clonage des voix, Eleven Labs, a proposé de ressusciter la voix de la doublure française pour ce nouveau film. La fille d'Alain Dorval, qui est la ministre Aurore Berger, a donné son accord pour un essai pour rendre hommage, je cite, au savoir-faire de son père. Dans son esprit, cet essai ne devait pas être publié, mais la production est passée en force, utilisant la voix clonée pour la bande-annonce du film en français. Et voilà le résultat.
On est face à une situation qui relève de la loi de Murphy. Si quelque chose peut mal tourner...
Ne bouge pas.
Ça tournera mal. Non, nous, on est prêts, et vous? C'est parti.
Alors, on a demandé à un comédien du collectif Touche pas à ma VF ce qu'il en pensait. Patrick Cuban, sa voix va vous dire quelque chose, c'est la voix des bandes-annonces de Canal+. Voici son verdict.
Assez pitoyable artistiquement, hein, ça marche pas vraiment en fait. On s'aperçoit que la technologie a toutes ses limites. Donc la techno, elle est pas prête, ça marche pas.
Bah, je suis assez d'accord en fait. Alors on a déjà vu ici, cloner une voix avec une IA, ça marche pas mal d'habitude. Pourquoi est-ce que ça c'est plutôt raté?
Une IA peut reproduire une voix, un timbre, un phrasé, mais elle ne peut rien faire, pour l'instant en tout cas, pour produire une intention de jeu. Le doublage voix, c'est une spécialité française. Et Patrick Cuban nous raconte ce qui fait le sel d'un bon doublage voix.
En fait, la voix, elle change en fonction du personnage. C'est-à-dire que c'est le personnage qui donne l'intention. Donc le visage se déforme, le corps se met en mouvement et puis on joue. On joue comme on joue sur une scène de théâtre ou devant une caméra. C'est exactement le même exercice, sauf qu'on s'adapte en fait au jeu du comédien américain. On joue avec lui, comme si on était sur son épaule en fait. Donc il y a vraiment un travail en symbiose avec le film. On joue à l'image.
Vu la réception glaciale de la bande-annonce et l'opposition ferme d'Aurore Berger à toute exploitation commerciale de cette voix bizarrement clonée, la production d'Armor vient d'annoncer qu'elle stoppait le projet pour le film. Et c'est donc un autre comédien, français, bien vivant, qui va doubler Stallone, un certain Michel Vignier.
Et alors, si la voix clonée avait été plus probante, Stéphane, si la production avait été au bout de son projet pour ce film, est-ce que la famille aurait pu s'y opposer ?
À qui appartient la voix d'un défunt ? On a posé la question à Jonathan El-Kaïm, avocat spécialiste de la propriété intellectuelle.
Elle appartient à personne, la voix d'un défunt. C'est bien ça le problème, si vous voulez. C'est qu'en réalité, la voix stricto sensu fait partie des droits de la personnalité. Comme le droit à l'image, le droit à la voix, si vous voulez, disparaît au moment où la personne décède. La seule chose qui peut rester aux héritiers, entre guillemets, c'est de pouvoir intenter potentiellement une action si la voix est réutilisée et qu'elle porte préjudice à la mémoire de la personne décédée ou un préjudice direct aux héritiers. Mais on sait à peu près d'expérience que c'est quand même une bataille difficile à gagner.
Bref, si la production était passée en force, elle aurait peut-être obtenu gain de cause devant un tribunal.
Et reste donc la question qui tue.
Et vous, Fabien de Sintès, vous qui êtes bien vivante, que se passerait-il si quelqu'un vous piquait votre voix de votre vivant ? Eh bien là, comme vous êtes vivante, ce serait beaucoup plus facile de protéger votre voix. Merci, le RGPD.
Là, si on parle du vivant, la voix est une donnée biométrique, dite sensible, qui est protégée au titre du RGPD. À ce titre, et en tant que donnée personnelle, elle est donc soumise à un consentement express de l'utilisateur. D'accord ? Je dirais même, si vous voulez, que cette journaliste en question pourrait même être, si elle fait une prestation qui est plutôt originale, comme le font les comédiens de doublage, qu'elle pourrait même agir en contrefaçon potentiellement, si on arrive à estimer qu'il s'agit d'une véritable interprétation et pas seulement d'un usage de sa voix lambda, si vous me permettez.
Mais je peux faire ça, monsieur.
Alors, est-ce une vraie interprétation original ou une voix lambda, j'imagine que vous avez une idée sur la question. Et pour avoir la réponse, nous, on a cloné votre voix. Allez-y. Et on lui a demandé de doubler en anglais une des répliques iconiques de Sylvester Stallone. Attention, accrochez-vous.
It ain't about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. Yo, Adrian, I did it.
Et voilà, là,
je suis pas hyper convaincu. En fait, c'est bon.
C'est
ouf.
C'est très bon.
On est encore sauf. Ouais, mais elle est pas bonne, votre IA. Oh.
Et on me glisse dans l'oreillette que c'était pas Rambo 2, mais Rambo 1. Mes excuses aux fans et à Sylvester.
Voilà, écoutez, bravo.